Radio des Falaises.
La radio Ango qui ne vous raconte pas que des ragots.
Je vous propose maintenant, pour enchaîner, d'écouter l'interview du président de l'association Ocotop, Monsieur Hédin, présenté par Pénélope. Cette interview devait avoir lieu cet après-midi dans le cadre de l'éco-émission, mais en raison d'obligations que Monsieur Hédin doit remplir, elle a lieu ce matin. Je passe la parole à Pénélope.
Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous pouvons voir moutons, chèvres, ânes reprendre leur quartier en plein cœur de la ville de Dieppe. Sur les falaises, dans les douves du château, au pied des immeubles et même au sein de certains établissements scolaires comme ici à Jean Angot. Ces animaux ont une mission, la gestion douce des espaces verts. On appelle ça l'éco-pâturage. À Dieppe, ce sont les moutons qui tendent la pelouse. Cette phrase peut faire sourire, mais pourtant, nous ne sommes pas loin de la vérité. Pour nous aider à mieux comprendre, nous accueillons Damien Hédin, président cofondateur de l'association Ocotop.
Bonjour.
Damien, bonjour, vous êtes le président cofondateur de cette association. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur celle-ci?
Alors Ocotop, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une association de préservation de la biodiversité et notamment par la gestion douce du paysage. Et dans les méthodes de gestion douce du paysage, on compte l'éco-pâturage, en effet, comme vous l'avez dit, avec des moutons, des chèvres, des ânes, des vaches. On a recours donc à des herbivores pour gérer l'espace vert en abandonnant autant que possible les machines et en rangeant définitivement au placard les produits chimiques. C'est donc la meilleure manière, une manière intelligente et inspirée tout simplement des traditions de nos aïeux, hein, inspirée des traditions pastorales, une manière intelligente, pleine de bon sens pour gérer différemment l'espace vert. Là où il n'y a pas besoin de mettre la tondeuse, là où il n'y a pas besoin de mettre la débroussailleuse, eh ben on peut avoir recours à des collaborateurs à quatre pattes. Et ça fonctionne plutôt très bien, puisqu'effectivement aujourd'hui Ocotop a des troupeaux dans tout le département et notamment depuis maintenant 3 ans au lycée Jean Angot.
Vous n'étiez apparemment pas prédestiné à être berger. Pouvez-vous nous dire quel a été votre parcours, le déclic pour en arriver là?
Alors, je vais peut-être pas revenir à toute l'origine de mon parcours, mais il y a une partie de mon parcours qui se passe ici, même dans le lycée Angot, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, sur les mêmes bancs. Le lycée Angot, j'étais bachelier du lycée Angot. Je ne devais pas en effet devenir berger, donc j'avais pas fait de lycée agricole, j'avais pas fait de formation agricole. Mais la vie nous réserve des surprises. Moi, j'avais plutôt prévu de soit d'enseigner l'histoire ou d'être journaliste. Je rêvais de ça quand j'ai décroché mon bac. Je suis parti faire des études supérieures. Et puis, la vie m'a conduit à faire d'autres choses, et notamment de rencontrer un homme politique local qui m'a embauché dans son équipe. Et je suis donc devenu un collaborateur de cabinet. Donc, effectivement, ma tenue, c'était pas vraiment celle du berger. Et puis finalement, la vie m'a conduit à créer Ocotop il y a maintenant 8 ans.
Justement, comment avez-vous troqué la chemise blanche contre ces bottes?
Je dirais qu'il y a eu un déclic. Le déclic, il s'appelle Anna. C'est le prénom de ma fille. Avec ma compagne Mélanie, lorsqu'on a accueilli Anna, notre premier enfant... On a peut-être accéléré notre prise de conscience sur la nécessité de changer un peu les choses et préserver un peu l'environnement. Et donc, du coup, on s'est dit comment agir et est né, donc, du coup, Ocotop, est née l'idée d'une association de préservation de la biodiversité et est née l'idée d'avoir recours à ces animaux. Alors, on n'a pas inventé le concept d'éco-pâturage, il existait déjà. Et j'ai d'ailleurs rencontré plein de gens en France qui le pratiquent comme moi. Mais en l'occurrence, on s'est décidé à lancer une aventure associative, un projet collectif. Et donc, Mélanie, moi, avec cette volonté d'agir et avec plein d'autres copains, on a créé Ocotop pour agir efficacement et de manière opérationnelle, de manière pragmatique. Parce que l'écologie, on peut en parler pendant des heures, mais il faut aussi agir. Et en l'occurrence, on avait très, très envie de passer à l'action.
Et est-ce que ce sujet, il a été bien perçu par vos proches?
Est-ce qu'il y en a certains qui se sont demandé si on n'était pas un peu fous? Sans doute, parce que passer... C'est pas vraiment le même environnement. Quand on travaille depuis des années dans des bureaux ou dans des administrations, c'est sûr que faire le grand saut, commencer à avoir des animaux, déménager de la ville à la campagne pour avoir une ferme et pouvoir accueillir les troupeaux, c'est sûr que c'était pas forcément, ça n'a pas été perçu tout de suite positivement par tout le monde. En tout cas, il y avait peut-être des petites inquiétudes légitimes. Après, il faut quand même se dire qu'on a été très, très vite encouragé, puisqu'on est, on a la chance d'être entouré de gens bienveillants qui ont cru en le projet, qui nous ont vite fait confiance. Et au final, nos proches sont montés à bord du train. Et c'est d'ailleurs grâce à... C'est une aventure collective, donc c'est grâce à ceux qui nous entourent qu'on y arrive aussi.
Votre démarche a-t-elle reçu un bon accueil ? Est-ce que des collectivités comme des mairies ou des entreprises ont réagi à votre démarche ?
Alors, je dirais qu'on a pu compter dès le départ sur de beaux partenaires, tant dans le domaine public, en effet, avec des collectivités et des établissements publics. Alors, c'est le cas c'est le cas ici avec le lycée qui accueille des animaux et qui a eu une démarche engagée dans ce sens. Mais c'est le cas également d'hôpitaux, c'est le cas d'établissements médico-sociaux, c'est le cas d'un certain nombre d'écoles et d'établissements scolaires. Ça, c'est une première chose. Les mairies, en effet, ont toujours répondu à l'appel. La mairie de Dieppe, notamment, et c'est la ville de Dieppe est une ville qui accueille énormément d'animaux par rapport à sa taille et donc est même citée en exemple aujourd'hui au niveau national comme une des villes les plus engagées dans la démarche d'éco-pâturage. On s'est étendu sur l'ensemble du département. Donc oui, dans nos partenaires, on a quand même rapidement trouvé de l'écho. On a rapidement trouvé des démarches volontaires. Et puis, vous évoquiez le monde de l'entreprise, c'est vrai. Il y a de grands comptes qui nous font confiance. Ça va être le cas d'Enedis, de Veolia, du groupe La Poste, qui font appel à nos services. Mais on a également les bailleurs sociaux. Et là, je trouve que la démarche est très intéressante avec les bailleurs, car mettre des animaux au pied des immeubles, dans les résidences ou dans les lotissements, ça a un impact qui n'est pas qu'écologique, il est aussi social. Il y a un rôle très important des animaux dans les quartiers qui, j'aime bien cette formule, améliore le vivre ensemble. Je pense qu'en tout cas, il contribue à faire du bien aux gens. Et la démarche d'Ocotop, elle est globale, c'est-à-dire comme c'est une démarche de développement durable, c'est une notion qui comprend aussi l'humain. Et donc, faire du bien à l'humain, c'est essentiel. Enfin, on travaille aussi, et c'est important pour nous, avec des grands comptes de l'environnement. Cette fois-ci, ça va être par exemple l'Office national des forêts, l'ONF, ou le Conservatoire des espaces naturels, qui font aussi appel à nous pour de la gestion écologique. Donc, pour répondre clairement à votre question, oui, on a eu très vite des partenaires et un écho très fort. D'ailleurs, pour vous faire une confidence, on est en plein lancement de saison actuellement, et c'est pour ça que je pouvais venir que ce matin répondre à vos questions. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Et on manque d'animaux pour pouvoir honorer toutes les demandes. Donc, c'est que oui, ça a plutôt le vent en poupe, l'éco-pâturage.
Vous avez cassé un peu les codes de l'élevage traditionnel. Comment avez-vous été perçu par vos collègues éleveurs ? Parce que ça ne doit pas être facile de se faire une place lorsqu'on n'est pas issu du monde agricole.
Alors, c'est tout à fait vrai. C'est même une question très pertinente. Il faut bien distinguer deux choses. Hein. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'élevage traditionnel. En effet, nous, on élève des animaux, mais pas avec la même finalité. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont pour mission de gérer le paysage, alors que l'élevage, que vous appelez l'élevage traditionnel, sont des éleveurs qui vont avoir un élevage dans un but de production. Hein, donc, soit du production de viande, de lait, parfois de laine, même si c'est beaucoup plus rare. Et donc, en l'occurrence, effectivement, il y a un distinguo important à faire entre ces deux manières de faire. Je pense qu'effectivement, on a été regardé au début comme des hurluberlus et en se disant qu'on ne faisait pas partie de la famille des éleveurs. Aujourd'hui, c'est un peu différent. D'abord parce qu'il y a une évolution des mentalités partout, dans tous les domaines, et y compris dans le monde agricole. Parce qu'on a fait nos preuves aussi, que les expériences ont démontré que ça fonctionnait, que ça avait du sens. Donc, on travaille beaucoup plus avec le monde agricole. On est même en partenariat avec plusieurs éleveurs. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est la même chose, au final. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être un éleveur ? Un éleveur, c'est prendre soin d'un animal de sa naissance à sa mort. Et c'est exactement ce que nous faisons. Donc, nous avons les mêmes pratiques, nous avons les mêmes manières de faire, en tout cas pour la plupart. On a beaucoup de similitudes et donc finalement, on a beaucoup de choses à partager. Et on partage, on échange. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours quelques petites résistances, mais non, on n'est pas des écolos hurluberlus, non, on n'est pas désignés comme ça. Et non, le monde agricole est bien plus ouvert que ça. Et même si la tendance est un peu à l'élevage bashing, je pense que ça, c'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus riche que ça. Et en tout cas, les échanges et les expériences que nous avons avec nos collègues éleveurs dans la région sont plutôt positifs de manière générale.
En tout cas, aujourd'hui, Ocotop est un carton. Vous avez une place légitime au Salon de l'agriculture. Cette année, vous avez été invité à monter sur le ring pour présenter l'éco-pâturage.
Une réelle reconnaissance pour un éleveur. et peut-être encore plus pour vous. Alors, quelle est la suite ?
Alors, le Salon de l'agriculture, en effet, c'était un rendez-vous un peu inattendu. Parce que là, pour le coup, les sujets de gestion écologique, les sujets d'éco-pâturage, ils sont plutôt très anecdotiques depuis des années dans ce grand rendez-vous de l'agriculture en France et même un des grands rendez-vous internationaux pour l'agriculture. C'est vrai que cette année, et peut-être aussi parce qu'il y a une véritable accélération des prises de conscience et que donc du coup, on nous sollicite de plus en plus, on nous a demandé au nom de COTOP, mais surtout au nom de la Fédération française d'éco-pâturage, dont je suis l'un des membres fondateurs, on nous a demandé d'aller promouvoir cette pratique et puis surtout, à travers cette pratique, rappeler quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début de cette interview, c'est que l'éco-pâturage, ça permet aussi de préserver des races d'animaux. Si on zoome sur, par exemple, ce que nous faisons ici au lycée Jean Angot à Dieppe, nous avons des chèvres des fossés qui interviennent dans les espaces verts du lycée. Ça peut paraître complètement secondaire, on pourrait se dire « oui, bon, ce sont des chèvres comme les autres », eh bien non, ce sont des chèvres en voie de disparition. Si on était en biodiversité sauvage, on dirait en danger critique d'extinction. C'est un terme connu aujourd'hui, qu'on entend beaucoup dans les médias d'ailleurs. Mais on parle souvent là des espèces sauvages. Quand il s'agit des espèces domestiques, on en parle un peu moins. Néanmoins, les espèces domestiques et les races domestiques sont menacées. C'est le cas de beaucoup de races en France, ce qu'on appelle les races patrimoniales, nous dans notre jargon. Et les races patrimoniales menacées, grâce à l'éco-pâturage, elles sont en train d'être sauvées. Et c'est le cas de la chèvre des fossés, c'est le cas du mouton d'Ouessant, c'est le cas de la brebis solognotte, c'est le cas des races normandes comme le mouton avranchin ou le mouton roussin de la Hague. Enfin, il y a un certain nombre de races comme ça qui méritent d'être sauvées, simplement parce qu'elles sont en très faible effectif, car pas assez productives dans l'agriculture standardisée. Et donc nous, on arrive, grâce à ces pratiques un peu novatrices, à sauver ces races. Donc, on est allé au Salon de l'agriculture en tant qu'ambassadeur de ces races patrimoniales, parce qu'elles y sont toutes, au Salon de l'agriculture, ces races. Il y a des éleveurs passionnés partout en France qui essaient de sauver les races. Et donc, du coup, on est allé au Salon de l'agriculture promouvoir ça, rappeler que l'éco-pâturage, ça permettait de sauver les races patrimoniales. En tout cas, ça y contribuait et ça a bien fonctionné. Effectivement, on a eu une tribune nationale et très médiatisée. Donc, c'était pour nous une très belle occasion de présenter cela. Enfin, vous me posez la question de la suite. La suite, c'est qu'au COTOP, comme ça se développe fort, je ne vous l'ai pas caché, et qu'on a beaucoup de travail, on est en train de professionnaliser tout ça. Au COTOP, c'était que des bénévoles il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est 3 emplois. Ce sera certainement davantage d'emplois dans quelques temps. Et donc, le monde associatif a atteint ses limites en ce qui nous concerne. Et donc, on aura peut-être à réfléchir, enfin, du moins dans les prochaines semaines, à réfléchir, à prendre des décisions pour une mutation vers une société coopérative, ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative, dans donc l'économie sociale et solidaire, pour continuer à garder l'esprit de COTOP et les valeurs initiales, mais en professionnalisant tout ça, et puis peut-être en allant plus loin dans nos valeurs, peut-être en accueillant des gens en situation de handicap ou des gens éloignés de l'emploi dans notre structure, pour pouvoir continuer à faire du bien à la nature et continuer à faire du bien à l'homme.
Eh bien, je vois, monsieur Hédin, que vous êtes un homme engagé dans l'humanitaire et pour la culture. Le monde associatif, vous le connaissez bien. Alors, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à des ados comme nous qui souhaiteraient s'engager dans une association ou autre ?
Alors, effectivement, j'ai eu un parcours dans ma vie. Le monde associatif a beaucoup compté dans ma vie. J'ai fait de l'humanitaire, effectivement, quand j'étais étudiant. Je me suis engagé dans des associations culturelles à plusieurs reprises. Ensuite, on a créé au COTOP. Je vous dirais une seule chose. Allez-y dans l'associatif. D'abord, parce que vous avez la chance d'être en France, c'est que je crois qu'il y a plus d'un million, entre 1 et 2 millions d'associations en France. Ce sont des centaines de milliers de bénévoles qui s'engagent chaque jour sur ces thématiques. Et le monde associatif, c'est une grande école. C'est une école de la vie, c'est une école du travail collectif. Alors, vous apprenez le travail collectif en étant lycéen. Naturellement, vos professeurs sont attachés à ça, à essayer de vous faire travailler ensemble. Mais le monde associatif, c'est obligatoirement collectif. Par définition, et c'est un enjeu considérable puisque on n'est rien sans les autres. Je le sais en tant que président d'association. Je suis invité, je viens parler, mais derrière j'ai une équipe qui travaille de salariés, de bénévoles, et sans eux on n'est rien. Donc c'est très très important de le rappeler. Donc c'est d'abord, je pense, une formidable école du travail collectif. C'est du coup une école du respect de l'autre aussi, et c'est important. Et puis c'est surtout quand on s'engage et quand on a la chance de mener des projets associatifs dans tous les domaines qu'ils soient, c'est l'école de la confiance en soi Et donc, la confiance en vous, vous allez en avoir besoin dans les années qui viennent. La confiance en soi, c'est la clé, hein, pour réussir tout ce que vous allez entreprendre. C'est la clé de l'entrepreneur. Donc, il faut avoir confiance en vos idées, confiance en vous, confiance en vos capacités. Et le monde associatif va vous permettre de mettre ça en œuvre. Alors, allez-y, engagez-vous. Et puis, si possible, engagez-vous dans l'écologie. Il y a fort à faire dans ce domaine. On vous l'a bien appris. Et puis, on vous le répète assez, je crois. Et moi, j'en suis convaincu. Donc, évidemment, allez-y, engagez-vous dans l'écologie. Et puis, de toute façon, vous êtes la génération qui a les clés en main pour l'avenir. Vous l'avez compris, vous avez compris qu'il fallait de la relève derrière nous pour Okotop et pour les autres associations. Donc on compte sur vous, allez-y. Et merci de votre invitation.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons été ravis de vous accueillir et on vous retrouve jeudi pour notre journée développement durable.
En effet, on sera là avec les animaux, tout à fait.